Destination Soleil. Merci de vous présenter au comptoir Beurre FM pour l'embarquement.
L'Algérie, ce matin, on la surnomme la bien gardée, la blanche, la joyeuse. C'est à Alger que nous sommes aujourd'hui.
BNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée.
De 10h à 11h, tout l'été.
Décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani.
Décalage immédiat.
Sur Beurre FM.
Et on vous propose de visiter les plus belles villes du Maghreb de 10h à 11h tout l'été sur Beurre FM avec Manuel Mariani. Bonjour Manuel.
Bonjour Philippe, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, globe-trotteur gastronomique.
Eh oui.
Et maintenant vous vous intéressez aux hôtels en plus du reste.
En plus parce qu'il faut bien faire la sieste après.
C'est Eddy Nedjari qui est avec nous et qui prépare l'émission. Bonjour Eddy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bienvenue. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-Pierre Frey. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes architecte sociologue. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte sociologue?
C'est un architecte qui trahit un peu son corps de départ. Et qui se pose des questions sur le rapport entre l'architecture et la société dans son ensemble.
Voilà, vous êtes professeur d'urbanisme, hein, vous avez enseigné l'architecture dans de nombreux pays, notamment dans les pays du Maghreb.
Oui.
Et vous vous intéressez aujourd'hui dans des actions de coopération visant à mettre en place des formations à la recherche et par la recherche en sciences sociales, architecture en urbanisme, notamment dans les pays du Maghreb. Alors vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'architecture, très peu sur l'Algérie finalement.
Oui, alors il y a des articles.
Il y a beaucoup d'articles, ouais.
Des articles qui correspondent à des interventions que j'ai eu l'occasion de faire à des colloques dans des écoles d'architecture, notamment, enfin à l'université, donc. Et un ouvrage dans lequel j'essaye de restituer ma perception de l'action de formation que j'ai pu mener, d'abord à Constantine, ensuite à Tunis et dernièrement au Maroc, à Rabat.
Voilà, vous avez publié aux éditions de l'Harmattan avec la collaboration de Hakim Cherkaoui, Les voies erratiques de l'urbanisation. Être architecte et devenir architecte urbaniste en Afrique du Nord. Et c'est chez l'Harmattan. Il existe une histoire architecturale de la société. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, alors ça, c'est une formule que j'ai reprise de mon professeur de sociologie à Nanterre, qui s'appelait Henri Raymond, et qui, dans les années 70, faisait un séminaire de recherche, s'adressant notamment aux architectes, pas exclusivement, mais donc les architectes qui étaient les plus portés à essayer de réfléchir au rapport entre l'architecture et la société, se sont lancés dans des travaux de recherche, sont devenus d'ailleurs majoritairement enseignants-chercheurs à l'université ou dans les écoles d'architecture, et l'idée d'une histoire architecturale de la société, ça consiste à renverser d'une certaine façon la propension qu'ont la plupart des architectes à penser que dans le fond la sociologie est censée apporter une contribution à l'architecture. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appellerait une histoire sociale de l'architecture. Renverser la formule et parler d'une histoire architecturale de la société, ça modifie les approches sociologiques en leur suggérant de prendre l'architecture comme matière, comme source d'information et donc d'interpréter la société en fonction de ce que l'architecture dit sur la société.
Une ville comme Alger regorge de merveilles architecturales. Souvent, les gens qui connaissent bien une ville passent devant des monuments, des immeubles, sans s'arrêter finalement, puisque ça fait partie de leur quotidien, et ils ne se rendent pas compte finalement de ce qu'ils ont en face d'eux.
Oui, c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut éduquer le regard, il faut savoir regarder et ne pas non plus sauter systématiquement sur quelques édifices exceptionnels en omettant de regarder ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, je suis plutôt porté à observer les paysages urbains et l'architecture anonyme que de faire dans ce que j'ai tendance à dénoncer comme du fétichisme architectural, c'est-à-dire ne regarder que quelques monuments ou considérer comme édifices intéressants en négligeant les autres.
Est-ce qu'on peut considérer qu'Alger, que ce soit avant ou après l'indépendance de l'Algérie d'ailleurs, est un peu le laboratoire architectural de l'Algérie?
Il l'a été, manifestement, d'abord parce qu'il y a l'héritage de la Casbah, qui est quand même un monument. Donc c'est quelque chose qui a évidemment frappé tous les observateurs qui ont découvert l'Algérie au 19e siècle ou avant, hein, bien évidemment.
Oui, avant l'arrivée des Turcs, il y avait déjà une architecture arabe à Alger sur les hauteurs.
Oui. Et j'en profite pour dire qu'une des caractéristiques principales d'Alger, c'est sa topographie, c'est-à-dire que les terrains en pente qui offrent une vue absolument superbe sur la baie d'Alger offrent aussi quelques difficultés de construction parce qu'il faut composer avec la pente du terrain.
Mais c'est la base, hein, et finalement. Et c'est ce terrain qui fait de la baie d'Alger ce décor si particulier.
Absolument. Donc alors, finalement, on peut découper l'histoire urbaine d'Alger en phases successives, avec des quartiers qui sont assez faciles à identifier en fonction des périodes de construction. Et c'est vrai que, dans le fond, la colonisation française a un peu contourné la Casbah. Elle a étendu la ville de part et d'autre de la Casbah, en changeant complètement le système d'organisation de l'espace en général et des architectures en particulier.
Mais Napoléon III voulait la préserver, la Casbah.
Oui, je pense qu'effectivement...
Il y a eu une volonté des départs de ne pas y toucher.
Oui, enfin, on y a quand même... On y a fait quelques rectifications, donc on a fait des percées, on a amélioré la circulation pour traverser. Alors justement, en fonction de la topographie, ça pose un problème. Donc finalement, la route du littoral, celle qui longe le port, a supposé de couper ce qu'on a appelé la basse Casbah de la partie haute. On peut peut-être préciser également que finalement, c'est peut-être l'Algérie qui a le plus souffert de la colonisation, du point de vue du respect du patrimoine, parce que contrairement au Maroc où le maréchal Lyautey avait décidé de ne pas toucher au Médina, celles d'Algérie ont quand même beaucoup souffert.
Oui, d'ailleurs, au début du XXe, il y avait le gouverneur général de l'Algérie, Charles Jonard, qui trouvait justement qu'on ne respectait pas suffisamment le patrimoine architectural, qui avait lancé un style néo-mauresque pour la ville d'Algérie, pour essayer de lui redonner un petit peu ses racines. Est-ce que c'était réussi ou pas ça, à cette période-là?
Bah, moi, je trouve que c'était très bien. Personnellement, je suis attaché à l'idée qu'une architecture doivent restituer les caractéristiques
respecter,
dans lequel elle est implantée. Alors c'est vrai que les premières constructions de la période coloniale française en Algérie étaient plutôt hâtives et assez peu solides.
Oui, on a même fait du Haussmann à Alger.
Non, mais même avant Haussmann, on avait des constructions de mauvaise qualité. Bon, on utilisait les matériaux qu'on pouvait, on n'avait pas forcément la main d'œuvre disponible pour faire des choses un peu sophistiquées. Ce qui fait qu'effectivement, assez rapidement, on s'est rendu compte que les premiers quartiers dits européens qui ont été construits à Alger présentaient un certain nombre de déficiences, de défauts, etc., que le gouverneur Jonard a souhaité améliorer ou rectifier.
Alors c'est devenu un style, hein, d'ailleurs, le Jonard.
Absolument. Donc que certains confrères ont appelé arabisance. Donc alors c'est vrai que l'idée, c'était de puiser dans le vocabulaire architectural du Maghreb en général quelques éléments stylistiques pour les réinterpréter dans des édifices nouveaux.
Alors, il y a une chose qui me semble un peu paradoxale, c'est que justement à l'indépendance, on a comme dans beaucoup d'autres villes, d'ailleurs on l'a vu sur d'autres villes algériennes, on a voulu un peu effacer tout ce qu'il y avait avant l'occupation française, avant les colonies, et du coup même les bâtiments qui étaient d'architecture néo-mauresque ou autre, on les a pas trop respectés, on a voulu construire du moderne pour bien marquer l'indépendance de l'Algérie, et on a un peu négligé des bâtiments, des édifices qui étaient magnifiques et qui pourtant n'étaient pas du tout de style colonial. Est-ce que ça change ça un petit peu aussi à Alger, comme c'est le cas à Oran, où on a pris conscience des vestiges et du patrimoine qu'il fallait préserver?
Oui, alors c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de voir le sort réservé à un certain nombre d'édifices qui rentrent dans le patrimoine national. Donc en fait, ça appartient aux Algériens et finalement, ils n'ont pas accordé l'importance qu'ils auraient pu à ce qui leur avait été légué. Alors bon, c'est une question politico-idéologique un peu difficile à détailler, mais c'est vrai que j'ai bataillé, moi, dans les enseignements que j'ai pu faire auprès des étudiants qui avaient, dans les années 70 et 80, une ambition, c'était construire un pays nouveau avec des logements confortables, etc. Et du coup, le respect ou l'entretien du parc immobilier ancien n'était pas pour eux une priorité. Il a fallu attendre les années 90 ou le début des années 2000 pour que...
C'est là la prise de conscience, vraiment.
Oui, qu'ils apprennent à regarder, finalement, l'intérêt que pouvaient présenter ces édifices et qu'ils se donnent les moyens d'essayer de les préserver.
Est-ce que l'intérêt qu'un touriste peut porter, d'ailleurs, à un immeuble, c'est le même que quelqu'un qui vit...
Non. Bah, d'ailleurs, les gens n'ont pas l'habitude de... comment dirais-je, de construire une sorte d'image rémanente de leur édifice. Ça s'est produit, alors je fais une petite parenthèse, ça s'est produit au Havre, par exemple. Donc la ville du Havre, entièrement moderne, reconstruite par Auguste Perret. Les gens qui ont habité le Havre n'ont pas pensé pendant des années que ça pouvait présenter de l'intérêt. Et c'est à force de voir
venir... On trouvait ça même, pardon de vous couper, mais oui. On trouvait ça même moche.
Oui, sans intérêt.
C'est barre, c'est cité, hein, oui. Puisque le Perret a fait des...
Et finalement, le fait que des touristes ou que des étudiants en architecture soient venus au Havre et regarder les façades, moi j'ai vu des habitants descendre dans la rue en disant « Mais qu'est-ce que vous regardez ?» On dit, bah, on regarde dans quoi vous habitez. Et de dire « Ah, vous trouvez ça bien ?» Ben oui, c'est intéressant. Et du coup, alors, ils ont complètement modifié le regard qu'eux-mêmes portaient sur leur ville.
Alors le parallèle que vous faites entre Alger et Le Havre, moi je trouve ça intéressant parce que Le Havre c'est une ville où on a longtemps négligé effectivement le patrimoine architectural parce que tout le monde était focusé sur le port parce que c'était un port de commerce, c'était le port qui faisait vivre toute la ville et Alger c'est un grand port de commerce aussi. Est-ce que le parallèle il peut être là, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur le port et son apport économique à toute la population et du coup on n'a pas regardé ce qui se passait derrière.
Oui, alors c'est vrai que du point de vue des hommes politiques et des intérêts économiques. Finalement, l'architecture est sensiblement négligée par rapport à des grands enjeux d'import-export, d'aménagement des infrastructures, comme effectivement les ports, etc. Donc l'architecture, c'est ce qu'on regarde d'une certaine façon en dernier, bien que...
Hélas.
On l'est sous les yeux en permanence, évidemment.
Comment est-ce qu'on aborde l'espace urbain à Alger avec le recul de l'histoire, quand on se promène?
Alors, quand on se promène, ça dépend de l'itinéraire qu'on suit.
Quelqu'un qui n'est jamais allé à Alger et qui va aller découvrir Alger.
Alors, ça dépend comment il arrive, s'il arrive en avion ou en bateau.
Bon, ça change tout. Ça change de point de vue, ouais.
Ça c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, l'arrivée en bateau est la plus impressionnante, bien évidemment. Donc, on découvre cette espèce de façade qui a été monumentalisée sous Napoléon III, si je ne me trompe, avec les principaux édifices publics de cette époque. Qui vient border les installations du port avec la voie de chemin de fer qui part évidemment, quasiment de la Casbah pour aller vers l'est et qui est une coupure. Hein. Bon, une fois qu'on a débarqué et qu'on commence à monter, parce qu'il s'agit de monter évidemment, donc on va découvrir d'une part la partie du centre-ville européen, héritée du 19e siècle, et puis juste à côté la Casbah. Si on va vers l'ouest, on va donc prendre la corniche et découvrir des extensions qui vont vers les zones balnéaires, on va dire. Et quand on va de l'autre côté, donc du côté du Ramra, etc., on va découvrir les zones industrielles avec les hangars, ce qui reste des industries de cette époque.
Oui, alors, après l'indépendance de l'Algérie, les premiers grands programmes immobiliers en Algérie, et notamment à Alger, ont été financés par les pays du Golfe, notamment les Émiratis. Est-ce que ça a eu une influence, ça, au niveau architectural, les projets immobiliers viennent du Golfe, ça a pu jouer au niveau architectural?
Oui, ça ne peut qu'avoir des effets éventuellement ravageurs si on imagine que l'objectif de ces opérateurs c'est de construire des tours, par exemple.
Oui, parce que l'architecture émiratie, c'est pas ancien, c'est voir être vu, quoi, plutôt.
Hein. Puis faire du fric. Enfin, un taux de rentabilisation du foncier qui est quand même assez énorme. D'ailleurs, il y a des projets qui ont été bloqués à Tunis qui allaient dans ce sens-là. Donc on voit évidemment des tas d'exemples comparatifs. Donc c'est intéressant d'investissement des pétrodollars du Golfe au Maghreb et qui se solde par des constructions qui sont complètement déconnectées et de la culture et du paysage.
Vous, quel est le bâtiment que vous préférez à Alger? L'immeuble ou l'endroit que vous préférez?
Bon, alors là,
tant qu'architecte, hein.
Oui, ben non, ouais. Pour le coup, évidemment, la Grand Poste d'Alger, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant.
Alors, on parlait de néo-mauresque. La Grande Poste, c'est ce qu'on appelle du néo-mauresque?
Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Non, c'est de l'architecture jaunard, ça, c'est tout à fait clair. Il y en a d'autres.
Architecture jaunard. Mais alors, ça ressemble à tout sauf à une poste.
Bah, vous avez une image idéale typique de la poste.
Oui, c'est ça. Oui. Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas jaune, Philippe. La poste, comment ça se fait?
Bon, enfin, bref.
L'extérieur est magnifique, mais l'intérieur aussi, d'ailleurs, dans la poste.
Oui, tout à fait. Non, mais ce sont des architectures très, très soignées, très savamment étudiées, et ce qu'on a un peu abandonné comme type de démarche par la suite. Mais ça pose la question qui est très intéressante de savoir comment un édifice est susceptible de signifier ce à quoi il sert et ce qu'il est véritablement du point de vue de son usage social.
Bon, mais on a eu des exemples en France, par exemple les gares, les lycées, les collèges, ils étaient tous dessinés à peu près de la même façon à une époque.
Oui, les gares, oui, ça c'est très clair. Non, jusqu'aux années 1920, les codes architecturaux essayaient de respecter l'esprit, la tendance, la fonctionnalité de ces institutions. Le mouvement moderne a un peu détruit cette relation et a fait advenir une architecture qu'on dit internationale parce qu'elle s'émancipe vraiment à la fois du site et de la symbolique, parce que c'est ça qui manque le plus. Mais pour répondre toujours à votre question, finalement, la poste d'Alger, vous pouvez pas la louper. Je veux dire, qu'elle ressemble à une poste ou pas, tout le monde sait que c'est la poste. Ça s'apprend très très vite, de la même façon que la gare d'Oran, qui a le même style, la même facture, et parfaitement identifiable comme une gare.
Il y avait un programme qui visait à transformer totalement et définitivement la Grande Poste en musée de l'histoire de la poste algérienne. Est-ce que c'est un projet qui avait commencé, quelques travaux avaient commencé? C'est un projet qui va être mené à bien ou est-ce que ça va rester quand même un bureau de poste?
Bon, ça j'ai pas suivi. Bon, alors il faut comprendre aussi que non, j'ai pas suivi les métamorphoses ou les affres de la reconversion des édifices, hein, parce qu'il y en a beaucoup effectivement dont on sait plus très bien quoi faire. Il faut comprendre aussi que finalement la poste, ça consiste à distribuer le courrier et me permettre d'acheter des timbres. Bon, alors, lorsque l'agglomération se multiplie par 10, en gros, en surface, il faut d'autres bureaux de poste que la poste centrale. Ouais. Donc, en fait, on a redistribué ce type d'activité. C'est un peu normal que, y compris sur le plan fonctionnel, finalement, l'organisation interne suppose qu'on modifie le bâtiment.
Visite d'Alger aujourd'hui avec notre invité Jean-Pierre Frey.
Destination Soleil.
Sur les plus beaux sites du Maghreb, 10h-11h, décalage immédiat, sur Beur FM.
Voilà, nous sommes à Alger aujourd'hui avec notre invité Jean-Pierre Frey. J'appelle que vous êtes architecte sociologue. On parle de cette ville qui a été un laboratoire architectural, hein, ne l'oublions pas. Peut-être que beaucoup d'immeubles que vous voyez tous les jours n'évoquent rien pour vous, mais ce sont des vrais chefs-d'œuvre de l'architecture. On peut évoquer un architecte de génie qui s'appelle Fernand Pouillon.
Absolument. Donc c'est un des architectes que je préfère d'ailleurs. Par l'effort qu'il a fait d'essayer de faire du logement social de qualité et de, comment dirais-je, de donner à ces architectures une facture facilement identifiable. Et d'ailleurs, on arrive à reconnaître sans problème les réalisations qu'il a pu faire à Alger en répondant aux commandes du maire de l'époque.
Jacques Chevalier. Oui, qu'il avait appelé pour faire... Alors, il y a trois cités hein, qui portent son nom et qui sont, j'allais dire, mais vraiment, on dirait des rêves, quoi.
Oui, alors c'est quelquefois des rêves qui tournent un peu au cauchemar, ouais. ça dépend comment.
C'était futuriste pour l'époque, ouais.
Oui, c'était impressionnant d'efforts, notamment le Climat de France, qui est en haut de Babeloued, et qui supposait de travailler le terrain, enfin de dégager un plateau pour pouvoir faire des édifices relativement longs. Donc c'était les premiers aussi longs qu'on avait la possibilité de faire à Alger. Les autres cités aussi se caractérisent par des ensembles résidentiels importants, c'est-à-dire un nombre de logements très important. Donc c'est pas la cité des 4000, mais bon, il y a quand même...
C'était peut-être des 1000 ou des 3000 à l'époque. Hein.
Oui, oui, non, c'était quand même quelque chose d'impressionnant.
Les trois cités de Pouillon, c'est Diar et Saada, vous avez Diar El Massoul et Climat de France, donc. Mm-hmm. Mais c'est très particulier, d'ailleurs, hein, puisqu'il il avait collé des choses sur les bâtiments, il y avait des sculptures... Hein.
On se croirait dans un film de Jacques Tati un peu dans les cités de Pouillon. Hein. C'est vrai.
Il y avait deux choses quand même à remarquer dans l'architecture de Pouillon. Il y avait les jambages en bois, donc qui renvoyaient donc sous les balcons à quelque chose d'un peu traditionnel de l'Algérie. Et puis la pierre qu'il faisait venir de la région d'Aix en Provence, donc il l'avait déjà utilisée à Aix et avec d'ailleurs des connivences avec une entreprise qui exploitait la pierre. Mais donc il avait ce matériau qu'il utilisait systématiquement.
Alors, elles ont été construites dans les années 50, hein, 1953, 1954. Alors, vous parliez de comment ça a vieilli. Effectivement, comment elles ont vieilli, ces cités? Est-ce que ce qui était très moderne en 1950, aujourd'hui, en 2018, ça a bien vieilli comme le Havre, ou alors pas du tout?
Bah, ça a souffert d'un certain nombre de processus. Bon, le premier, c'est que c'était du logement social, donc avec des surfaces relativement limitées, un confort normatif relativement minimum, mais pour des familles dont la démographie était censée être de 2 à 3 enfants.
Bon. Oui, stable, on va dire.
Ouais. Oui, enfin, avec une démographie, effectivement. Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est que la progression démographique et le besoin d'accueillir un nombre grandissant 100% d'habitants d'Alger a fait qu'ils se sont entassés dans ce type de réalisation. Et bien évidemment, donc, si vous augmentez la densité d'utilisation des locaux, vous contribuez aussi à sa détérioration. Enfin, sans compter que certaines cités ont été, celles de Climat de France, ont été rehaussées avec des gens qui ont utilisé les terrasses pour construire des cabanons ou même des appartements dans lesquels ils ont, d'une certaine façon, squatté les immeubles.
Alors dans ces cités anciennes qui ont été imaginées par Pouillon, il y avait beaucoup de comme c'était des cités effectivement familiales, il y avait beaucoup de cinémas avec une très belle architecture et certains sont tombés un petit peu dans l'oubli, presque en ruine. Est-ce qu'il y a une politique de préservation de ces cinémas? Est-ce qu'ils vont être rasés? Est-ce qu'on va en faire quelque chose?
Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire soutenir une thèse à un étudiant sur les cinémas d'Algérie.
Tu t'es posé la bonne question.
S'intéresser à des questions, enfin des questions quasi bureaucratique, je lui dis non, bon, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder ce que sont devenues les salles de cinéma, parce que l'Algérie était bien dotée en salles de cinéma, qui avaient des architectures tout à fait remarquables.
Un peu comme le Luxor
voilà,
à Paris.
Exactement, oui, tout
oui,
à
non,
fait.
Mais même un peu comme l'Olympia. Enfin, bon,
on peut se poser la question de savoir si c'est pas Pouillon qui a fait le Luxor à Paris, d'ailleurs, faudrait vérifier ça.
Non, c'est pas lui, ça. oui, alors vous avez certaines réalisations tout à fait exemplaires, intéressantes, qui marque leur époque, c'est le cas des cinémas, donc à partir des années 20-30 jusque dans les années 60, ce sont des lieux publics très fréquentés et facilement repérables dans l'espace urbain. Alors ce qui s'est passé quand même, c'est que les cinémas ont fermé, les réseaux de distribution de films se sont considérablement modifiés. Dans les années 90, c'est-à-dire la décennie noire, tous les cinémas ont fermé.
Oui, c'est l'époque où on construit des grands multiplexes parce que plus rentable.
Oui, on construit des multiplexes en France, mais pas en Algérie.
Ah.
On construit rien en Algérie, il n'y a plus de cinéma.
Il n'y a plus de cinéma du tout.
Non, d'accord. Même la cinémathèque qui a essayé de survivre devait être protégée par la police, donc c'est très compliqué.
Alors, il y a quelques réouvertures de cinéma en Algérie.
Alors ils ont effectivement compris qu'on ne pouvait pas systématiquement ne regarder les films qu'à la télévision ou sur un smartphone ou une tablette, et que finalement c'est une forme de sociabilité auquel les citadins sont attachés. Alors ils ont rouvert certaines salles de cinéma, et ils supposent les rouvrir, d'ailleurs il faut effectivement les rénover, il faut changer le matériel de projection, il faut refaire de la publicité, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et je reviens à la question de l'entretien du parc immobilier. Il faut pouvoir disposer des compétences et de la main d'œuvre requise pour travailler les édifices correctement. Or, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, après l'indépendance, une partie de la main d'œuvre qualifiée est venue travailler en France sur les chantiers, donc comme travailleurs immigrés, et ça a d'une certaine façon un peu déshabillé l'Algérie. Et donc, ils se sont retrouvés avec une main d'œuvre relativement peu qualifiée, qui savait faire à la limite du béton et du parpaing, mais qui ne savait pas forcément entretenir des édifices du 19e siècle qui étaient construits avec d'autres matériaux et d'autres mises en œuvre.
Alors justement sur les cinémas, parce que jusque dans les années 60, même 70, dans les cinémas on n'y allait pas que pour voir un film, on y voyait les infos aussi, il y avait de la musique, il y avait des groupes de musique qui jouaient dans les cinémas, etc. Est-ce que ça créait du lien social? Est-ce que la politique de reconstruction un petit peu des cinémas ou de réhabilitation des cinémas à Alger, est-ce qu'elle s'inscrit aussi dans cette notion de recréer du lien entre les habitants?
Bah, il manquait un peu bonbons, caramel et chocolat glacé, hein. Donc oui, c'est évident que les à côté de la sortie familiale consistant à aller au cinéma ont été un peu dissociés de la vision des films. C'est une sortie. Dans les cinémas de quartier, les gens n'allaient pas voir le film de tel réalisateur, ils allaient plutôt voir les films de certains acteurs, et puis quelquefois ils allaient voir le film qui passait la semaine d'après.
Enfin, bon, oui, beaucoup de cinémas ont été transformés d'ailleurs en salles de spectacle ou en salles de mariage.
Ou en supermarché. Parce que
on l'a carrément. Oui.
Je parlais de laboratoire architectural tout à l'heure, il y a l'ombre d'un grand architecte qui plane sur Alger, c'est Le Corbusier. Oui. Même si lui n'y a rien produit finalement.
Lui, il plane partout, hein, j'oserais dire. Donc,
ne serait-ce que par ses élèves, ne serait-ce qu'à travers ses élèves.
D'une façon que je trouve un peu éhontée, c'est-à-dire qu'il a droit à un succès médiatique que je trouve éhonté. Oui, enfin, voilà.
D'accord, usurpé.
Oui. Oui, oui, enfin bon, c'est un drame idéologique, je dirais, dans la formation des architectes. Ils en font une sorte d'idole, et ça les amène à négliger tout le reste, donc c'est un petit peu dommage. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu à Alger, au début du XXe siècle, un milieu d'architectes dits modernes, c'est-à-dire qu'il y avait envie de modifier les codes architecturaux, d'améliorer le confort aussi, de tenir compte de la fonctionnalisation de la ville, et qui sont devenus des disciples de Le Corbusier. Et ils ont souhaité le faire venir pour pouvoir gagner en audience.
Mmh. Oui, il avait un projet un peu fou qui s'appelait Obus, qui consistait à bétonner sur 10 km tout le pourtour d'Alger. En un grand amphithéâtre. C'était un peu...
J'ai eu l'occasion de publier un article sur le plan Obus, qui était sous-titré Alger sous les bombes. Enfin, en fait, Alger a échappé à une certaine destruction, qui était quand même la démarche de Le Corbusier, effacer les traces du passé et puis faire du neuf à la place. Alors, le plan Obus était un plan un peu démoniaque qu'il avait imaginé d'ailleurs à Rio de Janeiro, donc en voyage en Amérique latine. Donc, à la découverte de la topographie de Rio, qui est quand même tout à fait extraordinaire, il avait imaginé qu'on puisse faire toujours du logement social, mais sous forme de grandes barres de plusieurs kilomètres de long avec une autoroute par-dessus. Bon.
Alors, en parlant de route, justement, il y a un immeuble qui est très particulier à Alger. Il en existe deux au monde, hein, à Alger et un au Brésil. C'est ce qu'on appelle l'immeuble Pont-Burdeau de Pierre Marié, un immeuble de 1952.
Oui, alors voilà, un disciple de Le Corbusier, effectivement. Donc, je reviens à la topographie. Effectivement, vous avez...
C'est un immeuble viaduc.
C'est ça, parce que vous avez une rue importante qui remonte sur les hauts d'Alger, vers El Biar, et qui, à un moment donné, est confrontée à des ravins, bon, évidemment. Donc, il faut enjamber les ravins, et donc faire des ponts. Bon, de là à ce qu'on transforme le pont en toiture d'habitation, il n'y a pas loin. C'est ce qui s'est passé. Mmh. Donc, c'est intéressant du point de vue de la créativité architecturale. C'est intéressant du point de vue de l'ingéniosité topographique, évidemment. Et puis, ça offre la possibilité aux gens qui habitent dans ce type d'édifice d'avoir une vue assez remarquable sur la baie d'Alger aussi.
Mmh. C'est incroyable, cet immeuble.
Et parce que le viaduc, en fait, c'est à la fois le toit d'immeuble.
C'est ça.
Le viaduc. Enfin, oui, c'est et un pont. Enfin, c'est
ben, vous avez un peu la même chose là près de la gare de Lyon avec les magasins qui ont été installés sous le viaduc qui allait à la gare de.
Sous l'arche, la coulée verte, ouais.
Oui, sous les arches. Il y avait aussi cet édifice, pardon, en Italie. C'est pas Milan, c'est un. Plus au nord, du constructeur automobile qui avait fait une piste, évidemment, pour essayer ses Fiat, hein, donc pour essayer ses voitures sur la terrasse de son usine.
Alors, le président Moumediene va faire appel aussi à un grand architecte, hein, celui qui a dessiné Brasilia, le Brésilien Oscar Niemeyer, donc lui aussi qui était un moderniste.
Oui, alors c'est plutôt Lucio Costa d'ailleurs. Donc, le couple Lucio Costa qui est chargé de l'urbanisme et Niemeyer qui fait les édifices. Donc, ce sont eux deux qui ont imaginé effectivement la ville de Brasilia.
Mmh. Et Alger, donc, il y a une faculté, hein, puisque c'est lui qui va dessiner l'université des sciences et de la technologie Wahrib Oumediene.
Oui, alors je suis pas loin de penser que là il y a une erreur.
Comme la faculté de Constantine d'ailleurs.
Il y a une erreur de casting là quand même, me semble-t-il.
Pourquoi?
Parce que Oscar Niemeyer était phobique, il voulait pas prendre l'avion. Bon. Et donc il a quand même comme caractéristique d'aller assez peu sur le terrain pour voir où il allait implanter ses édifices. Donc il fait des dessins au gros feutre d'ailleurs, parce que là c'est une précision quand même très très sommaire.
Oui. C'est pas des dessins d'architecte, quoi. C'est pas millimétré.
Non, il rentre pas dans le détail. Lui, le second œuvre, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le geste.
L'esthétique.
C'est une esthétique quasi aérienne. Enfin, c'est quelque chose de c'est des ovnis. Ce que j'appelle des ovnis, moi, quand même, ces édifices, c'est des choses qu'on pose comme ça quelque part. Et puis, sans intégrer évidemment les caractéristiques de ce qu'il y a autour. Bon, c'est clair. Alors, il a eu la possibilité, effectivement, de faire quelques grands équipements. Donc, c'est l'université d'Alger, celle de Constantine. Je sais pas s'il a sévi ailleurs, mais bon. Pour moi, ce sont des édifices quand même qui sont alors radicalement opposés à toute la culture algérienne. Bon, c'est clair. Alors, on voulait faire dans
le... À l'aéro d'Habitat aussi, il y avait eu une levée de bouclier contre cet immeuble, de peur qu'il ne dénature le site. D'ailleurs, on parlait de Le Corbusier, l'aéro Habitat, beaucoup d'Algérois l'attribuent à tort à Le Corbusier, alors que Le Corbusier n'a jamais rien construit à Alger, comme vous le disiez.
Oui, voilà, il y a un mécanisme d'usurpation de la paternité des œuvres, dont Le Corbusier est quand même un des spécialistes. C'est vrai qu'on lui reproche un certain nombre de choses qui, en fait, devraient être attribuées à ses disciples.
À ses élèves, oui, plutôt qu'à lui.
Il a relativement peu construit. En revanche, il a idéologisé un certain nombre de choses.
Oui, il a influencé, on va dire.
C'est tout à fait clair, oui. Mais alors l'université de Constantine, mais c'est quand même assez redoutable. Je pense que vous la connaissez. Donc il y a une dalle absolument infréquentable en hiver. Elle est balayée par le vent froid, c'est insupportable. Et en été, on peut faire cuire des œufs sur la dalle.
Après, c'est un style. On aime ou on n'aime pas. L'architecture, c'est ça finalement.
Non, ce n'est pas que ça justement.
Non.
Mon humble avis. Donc le style est une chose, mais la fonctionnalité en est une autre. Les éléments de confort aussi. Les possibilités d'appropriation qui sont un phénomène sociologique particulièrement important. Vous avez des architectures qui se prêtent plus ou moins bien à ce que les habitants s'installent dedans et en fassent un véritable habitat.
Mais par exemple, le front de mer à Alger, est-ce qu'il était adapté?
Ah, il était, oui, et oui, il était adapté, et d'une part sur le plan fonctionnel, d'autre part sur le plan esthétique. Alors, c'est tout à fait clair. Mmh. Et sur le plan symbolique, hein. Donc, c'est un élément, c'est un monument très marquant du paysage urbain d'Alger, c'est clair.
Oui.
À tel point que les gens peuvent imaginer que ça a toujours existé, alors que donc ça a une histoire, ça apparaît à un moment donné où il y avait autre chose avant, évidemment, à la place.
Qu'est-ce qu'il y avait avant?
Bah, il y avait des bouts de collines avec des baraquements, des édifices plus ou moins bien construits qui s'effilochaient un petit peu.
Parce que l'ancêtre de la ville d'Alger, en fait, elle était sur les hauteurs avant et puis elle est descendue petit à petit vers la mer à mesure qu'on a construit. Mais
non, c'est l'inverse.
Ah, c'est le contraire. Ah, bah, alors j'ai lu une chose erronée, effectivement.
C'est le contraire. Enfin, si on reprend, c'est intéressant quand même de reprendre la morphogénèse, on peut dire, de la ville. Donc il y avait la Casbah, donc. Et ensuite, finalement, la France arrive par la mer, hein, évidemment, Sidi Firouche, et puis ensuite s'approprie le port pour pouvoir gérer les échanges commerciaux maritimes. Et le centre-ville est dans la partie basse, bien évidemment. Bon, il y a la percée de la basse Casbah avec donc les deux rues qui font la jonction entre le faubourg de Bab el Oued et puis ce qui va devenir le véritable centre-ville. Et puis finalement, l'agglomération grimpe le long de la montagne, le long des collines, le long des ravins, celui de la femme sauvage.
D'accord, etc. Bon, quand les Ottomans s'emparent d'Alger, de la Casbah est déjà là.
La Casbah est déjà là.
D'accord.
Oui. La Casbah est déjà là. Bon, on a un peu des problèmes pour faire de l'archéologie et arriver à restituer ce qu'il pouvait y avoir avant que les Turcs.
Oui, dans une ville construite, c'est pas évident.
Les Arabes n'arrivent, etc. Donc, ça a été un petit peu négligé. Bon, il reste évidemment des ruines romaines. Bon. Il y a celles qui sont sous Alger, sans doute, qui ont dû disparaître, évidemment. Bon. Et là, on ne va pas faire de l'archéologie sous la Casbah pour retrouver
c'est clair.
Mais donc, il y avait.
Une des découvertes, au moment de l'installation du métro, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes.
Ah, bah, à chaque fois que vous creusez, vous trouvez quelque chose. Alors, ça, c'est tout à fait clair, quelle que soit la ville.
On a parlé avec notre invité quand on parlait de la ville d'Oran. Effectivement, dans la Casbah, il y a des endroits qui sont réhabilités. Donc, on fait au passage des fouilles et on retrouve des choses, effectivement, très, très, très anciennes. Mais c'est vrai que sur une ville très construite comme Alger, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Bien, dans un instant, vous allez gagner des guides petits futés.
On exactement, gagne. Maintenant c'est à vous de jouer. Beurre FM vous fait gagner le guide d'Alger offert par notre partenaire Le Petit Futé. Pour cela, il faut répondre à la question suivante: quel est le style architectural de la Grande Poste d'Alger? Pour cela, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Destination Soleil. Sur les plus beaux sites du Maghreb, 10h, 11h, décalage immédiat, sur Beurre FM. Beurre FM, 10h, 11h, décalage immédiat.
Nous sommes à Alger jusqu'à 11h ce matin avec notre invité Jean-Pierre Frey, qui est architecte et sociologue. Eddy, on gagne un guide offert par notre partenaire, Le Petit Futé.
Exactement, on gagne justement un guide d'Alger qui est offert par notre partenaire, juste Le Petit Futé. Pour cela, il faut répondre à la question suivante: quel est le style architectural de la Grande Poste d'Alger? Pour répondre, il vous suffit juste d'appeler le numéro du standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Et je vous propose d'accueillir Yamina. Bonjour et bienvenue, Yamina.
Bonjour et bienvenue, Yamina.
Allô?
Oui, Yamina.
Yamina, il faut éteindre la radio parce qu'on s'entend parler derrière vous, là.
Oui, non, parce que c'est votre radio. Attendez, je m'éloigne.
Alors.
Bonjour.
Yamina, bonjour. Radio, voilà, c'est parfait. D'où nous appelez-vous aujourd'hui, Yamina?
De Sète.
De Sète, waouh.
Oui.
Ah, c'est très beau, Sète. J'adore cette ville.
Très beau, il fait très chaud aujourd'hui, mais ouais.
J'ai plein d'amis à Sète, ouais. Que je salue au passage.
Moi, j'étais à Paris 40 ans et là, je viens de débarquer à 7. Donc
vous avez bien fait. Je vais peut-être vous rejoindre un jour.
Vous avez raison, c'est une très belle ville.
Yamina, on vous posait une question qu'on rappelle, Eddy.
Quel est le style architectural de la Grande Poste d'Alger?
Alors,
écoutez, comme je passais l'aspirateur, j'ai pas bien entendu, mais comme je connais Alger, je pense que c'est mauresque.
Ah non, c'est une très bonne boisson, mais c'est pas ça. Yamina,
oh, c'est
non.
Pas mauresque.
C'est presque, mais c'est pas ça.
Alors, c'est dommage parce que je passais l'aspirateur et.
Ah ben voilà.
Bon, c'est marocain quoi. C'est le fil dans des Turcs, mais comment on dit ça? C'est comme le musée du Bardo.
Est-ce que le non, on peut pas vous l'accorder, Yamina.
D'accord.
Allez,
bah, tant pis.
Merci
tant
beaucoup.
Je
bonne journée.
Prie, au revoir.
Malika
au
revoir. Est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, bonjour et bienvenue. Malika. Alors Malika.
C'est pas très bien. Je vous ai écouté, ah. Mais ça m'a.
Malika, on vous entend.
Pardon.
On vous entend maintenant parce qu'on vous entendait pas au départ. Là, on vous
alors,
entend.
C'est
bonjour Malika.
Néo-mauresque.
Ah, voilà.
Bonne réponse.
Elle,
il manquait un petit bout, effectivement. Il manquait un petit bout à la réponse précédente.
Ah.
Mais vous avez la réponse complète.
J'ai bien entendu. En tout cas, merci de parler d'Alger.
Vous êtes algéroise, Malika?
Pas du tout.
Bon.
Mariage, oui. Ben, ma belle famille est de là-bas et je connais bien Saada, qui est une ville, oui, avec l'architecte Bouillon, qui était magnifique et qui est encore très belle.
Bah, Malika, bravo et merci d'avoir participé. Surtout, vous restez bien en ligne parce que Yanis va prendre votre adresse et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous envoyer ce guide petit futé de la ville d'Alger.
Merci et très bel été, Malika. Jean-Pierre Frey, on parlait de la période haussmannienne de l'Alger, donc il reste énormément de vestiges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors peut-être la première chose à dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'habitat, je dirais, traditionnel de l'Afrique du Nord et l'habitat de européen, et en particulier celui de la période haussmannienne. L'habitat traditionnel est introverti, refermé sur lui-même, avec très peu de baies. Donc en fait, on voit rien à l'intérieur quand on se promène, évidemment, dans les tissus anciens, donc dans la casbah d'Alger. Alors, ce que va faire la France, elle va exporter évidemment la disposition des lieux qui dominent en Europe. Et la caractéristique, c'est qu'on va voir apparaître des édifices avec des façades largement ouvertes, avec toute une série de baies, d'ailleurs souvent avec des balcons, garde-corps, etc. Donc, il y a une sorte d'extériorisation de l'espace domestique qui change complètement le paysage urbain. Alors, ce qu'on peut appeler architecture haussmannienne, ça se discute parce que finalement, les travaux d'Haussmann correspondent à beaucoup d'enjeux de l'aménagement urbain et pas simplement de l'organisation des architectures. Mais le principe, c'est quand même d'avoir des espaces publics qui permettent de circuler facilement, circuler, pour les véhicules, les marchandises, la main d'œuvre, les fluides, donc tout ce qui est infrastructure, adduction d'eau, gaz, électricité, c'est ce qui correspond à ce qui a été réalisé dans la période haussmannienne. Donc les édifices dits haussmanniens ou qui correspondent à cette période à Alger sont des édifices qui sont équipés avec des éléments de confort, qui supposait de travailler le sous-sol, évidemment, de l'espace urbain et de faire monter ces éléments de confort à l'intérieur des appartements, avec des édifices qui montent à 4 ou 5 étages. Donc ça change complètement le paysage urbain. Alors on dispose à partir de ce moment-là de rues importantes qui deviennent des promenades privilégiées des Algérois. Évidemment, la rue Larbi Ben Mili, Lidouche Moulad dans le prolongement. Donc ce sont effectivement on pourrait presque dire les Champs-Élysées d'Alger. En tout cas, les lieux où se passent les défilés, les manifestations et où se promènent les urbains. La promenade en milieu urbain, c'est aussi une caractéristique typiquement urbaine, peut-être plus française ou européenne que maghrébine, évidemment, mais ils ont repris quand même cette activité-là consistant à flâner, peut-être pour lécher les devantures des vitrines plus que pour regarder les façades des édifices.
Alors, il y a une merveille, c'est le musée des Beaux-Arts, qui a été dessiné par Paul Guillon et qui donne sur les jardins d'essai.
Oui, alors le dénommé Guillon d'ailleurs a fait un très beau livre sur le dessin sur la casbah d'Alger. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de sensibilité. Alors vous voyez, là je préfère cet architecte là.
On sent que vous êtes beaucoup plus proche du Guillon que du Corbusier.
C'est clair, oui. Ouais. C'est clair. Alors vous avez quelques édifices comme ça qui ont en plus comme caractéristique d'être implantés au milieu de jardins. Il faut comprendre aussi que finalement dans la politique urbaine qui a été menée, il y avait le souci de planter des arbres, avec le fameux jardin d'essai, donc le jardin dit d'acclimatation, donc qui a existé pratiquement dans tous les pays, dans toutes les colonies françaises. Donc il s'agissait...
Oui, qui est devenu un parc d'attractions des fois. Ou...
Bah, c'est là qu'on a tourné le premier Tarzan avec Johnny Weissmuller.
Eddie, là, je crois que Jean-Pierre Frey est en train de vous savonner vos anecdotes.
Absolument, exact. Absolument.
Attendez, pourquoi est-ce qu'on est allé tourner Tarzan dans le jardin d'essai?
Bah, alors un, c'était.
Personne n'avait jamais tourné déjà là-bas.
Non, c'était... mais il y avait des grands arbres, donc ça lui permettait de mettre des lianes et le faire balader d'un arbre à l'autre, c'est ça en fait. Et puis on pouvait très facilement implanter les caméras et puis on pouvait protéger le site de façon à tourner tranquille.
Oui, et puis contrairement à la vraie jungle, il y avait l'électricité et tout ça, quoi.
Voilà. Hein,
et des hôtels autour.
Vous ne regarderez plus jamais Tarzan de la même façon.
Bah voilà. Non, mais alors j'insiste quand même sur le fait qu'effectivement il y a eu cette stratégie consistant à essayer d'implanter un certain nombre d'essences d'arbres et puis pour les implanter dans l'espace urbain. Et ça c'est quand même remarquable comme type de démarche.
Manu, si on va à Alger, donc on reste où? Est-ce qu'il y a le choix finalement?
Alors, il n'y a pas tant de choix que ça, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'hôtels à Alger. La politique touristique d'Alger, les voyageurs qui venaient à Alger, souvent c'était des enfants ou des petits enfants d'Algérois, et donc ils logeaient à la maison dans la famille, et donc il n'y a pas eu un énorme besoin en hôtel. Et même si le tourisme s'est un peu plus développé à Alger, et là il se développe encore un peu plus. Parce que là, maintenant, il y a une vraie volonté politique de développer le tourisme. Il n'y a pas tant d'hôtels que ça. Alors, ça permet quand même ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que certains hôtels sont très vétustes, pas très bien entretenus, et donc on ne vous recommande pas d'y aller. Puis il y en a d'autres qui ont été un peu mieux entretenus, qui sont des hôtels des années 10, 20, 30, etc., qui sont des pépites architecturales et qui ont été plutôt pas trop mal conservés. Alors, bah, par exemple, le Central Touring Hotel, qui est dans le quartier Soustara juste à côté du port, hein, où on peut avoir des chambres pour 30 euros, à partir de 30 euros la chambre double. C'est l'ancien hôtel des voyageurs, donc un hôtel des années 20. Les chambres sont plutôt propres, un peu désuètes certes, mais elles ont conservé quand même du charme avec des cheminées d'époque, un carrelage d'époque, pas toujours bien restauré, mais bon, il est quand même là, il est quand même d'époque, avec un confort basique. Alors il y a une chambre, c'est la numéro 129, si elle est disponible, demandez-la, parce qu'elle est très agréable. Elle a une petite terrasse avec vue sur mer, hein, pour le même prix que les autres. Donc essayez d'avoir la chambre.
Ils vont pas comprendre, ils vont avoir plein de réservations sur la chambre 129, ils vont se demander pourquoi.
Eh ben écoutez, c'est à cause de Beurre FM, ou plutôt grâce à Beurre FM. Et donc privilégiez la chambre. Alors pour les geeks, hein, c'est pas forcément l'hôtel idéal, parce qu'il y a de l'accès au wifi, oui, mais uniquement dans le salon collectif au rez-de-chaussée. Ça fait partie des inconvénients des hôtels un peu anciens et bon marché. Il y a aussi un petit restaurant, on mange pas trop mal, mais enfin ça c'est anecdotique. La situation elle est idéale parce que centrale, mais faites attention à la fréquentation du quartier soit venu. Vous êtes entre la Casbah et le port. La journée, il n'y a aucun souci, mais le soir, faites-vous déposer en taxi devant l'hôtel, parce que c'est pas toujours très très bien fréquenté. Il y a des matelots du monde entier qui pourraient vous soutirer votre bourse.
Alors il y a un hôtel, hein, pour ceux qui ont un peu plus de sous. Il y a l'hôtel Saint-Georges, hein, qui est l'institution d'Alger.
Attention, l'ex-hôtel Saint-Georges, parce qu'il faut l'appeler maintenant hôtel El Jazayer, même si tout le monde à Alger continue à l'appeler hôtel Saint-Georges. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Fernand Pouillon, et ben tous les ornements du hall de réception de l'hôtel Saint-Georges, de l'ex-hôtel Saint-Georges, ont été conçus par Fernand Pouillon. Alors là, c'est un hôtel qui est avenue Souidani Boudjema. Là, c'est quand même un budget un peu plus important, à partir de 174 euros la chambre double. C'est un hôtel qui a été repris par qui tombait un petit peu en désuétude, mais qui a été repris par la jeune chaîne d'hôtels El Jazayir, et donc qu'il a un petit peu restauré, qu'il a rendu un petit peu plus moderne et fonctionnel. Merci Eddy.
Dès qu'on parle de modernité.
Oui, parce que c'était quand même un hôtel qui a été édifié en 1889 à la base, hein, puis qui a été rénové, agrandi avec un esprit mauresque, hein, donc c'est vraiment un hôtel magnifique. toute la bourgeoisie d'Alger, les intellectuels, etc., sont passés par là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le QG d'Eisenhower. Donc un hôtel plein d'histoire. Il est bordé d'un très beau jardin botanique. Donc on est vraiment au calme à l'intérieur de l'agitation algéroise, et puis une très belle vue. Toutes les chambres ont une très très belle vue sur la baie d'Alger. Donc on vous le recommande. Il y a des très bons restaurants aussi. Il y a le Saint-Georges qui est un restaurant assez cher, mais où on mange très très bien, qui fait de la gastronomie algérienne et française. Mais là, vous n'êtes pas à Alger pour manger français. Il y a aussi la Pagode de Jade, un restaurant chinois. On se demande
ce comme que son ça nom fout. L'indique.
On oui. se demande ce que ça fout là. Moi, je le dis clairement. Mais bon, il y est, donc je vous le dis quand même. Il y a un snack bar El Yamin où vous pouvez manger des kebabs, etc., des brochettes, donc qui sont sympas. Il y a aussi un bar lounge et puis une discothèque, le Pacha Club, où là, il y a toute la bourgeoisie et la jeunesse dorée d'Alger qui vient se déhancher le week-end.
La chichi. Ah, il y avait un très bel hôtel qui avait été inauguré par Charles Chaplin qui s'appelle l'hôtel Aletti.
Oui, alors c'était parti avec le Saint-Georges. Évidemment, deux grands hôtels d'Alger chargés d'histoire. Je reviens sur le Saint-Georges. Saint-Georges, ça s'écrit sans S normalement.
Oui, Saint-Georges sans S, oui, comme Georges V.
Beaucoup de parce que ce sont les Anglais qui sont à l'initiative de cette réalisation. Il a été construit en cœur d'îlot, donc ça c'est important. En cœur d'îlot, c'est-à-dire qu'il n'est pas aligné sur la rue comme les édifices haussmanniens par exemple, donc il est en retrait. Ce qui lui est arrivé malheureusement quelques années plus tard, donc après l'indépendance, c'est que son succès a fait qu'on a souhaité à la fois le moderniser et le rendre plus accessible aux automobiles. Donc en fait, ils ont construit une partie des jardins et ils ont mis des garages.
Ah, dommage.
Parce qu'on peut y accéder en voiture de plus en plus. Donc c'est un peu... Ça, en fait, c'est pas l'image... On n'a plus à l'heure actuelle l'image qu'ils pouvaient offrir de sa période de gloire. Bon, alors l'Aletti, il est dans la partie administrative de la ville, c'est-à-dire un peu au-dessus de... des colonnades qui dominent le port.
Moins connu que le Saint-Georges, mais c'est un vraiment...
Il est moins connu, mais il faut avoir en tête qu'il fallait, dans une ville comme Alger, qui était quand même la deuxième ville de France, pouvoir accueillir les officiels et les recevoir dans des conditions un peu somptueuses. Donc l'Aletti jouait ce rôle, c'était finalement le lieu privilégié pour les officiels, on va dire. Vous avez aussi dans les équipements hôteliers, alors ceux qui viennent jalonner les routes d'exploration du sud de l'Algérie, donc et ça correspond aussi à une période à la fois d'amélioration du réseau routier et de construction de toute une série d'hôtels. Je pense à le transatlantique, si je ne me trompe, qui est à Biskra, par exemple. Donc vous avez des réalisations comme ça qui viennent jalonner les routes permettant d'explorer le pays qui est très vaste, évidemment.
Alors juste une précision pour les auditeurs qui voudraient retrouver l'hôtel Aletti, il s'appelle l'hôtel Saphir maintenant.
Mais là on ce moment, il est en travaux et donc ils sont en train de le refaire et visiblement ils sont en train de beaucoup toucher à toute la période art déco et à tout ce qu'il y avait autour. Et un autre hôtel qui est devenu une signature d'Alger, c'est celui qu'on appelle le climatiseur, l'Oraci.
Ah, l'Oraci, alors ça c'est la période...
C'est 70, hein.
Oui, c'est la période d'influence des consortiums d'Europe de l'Est en matière de construction. Donc c'est un édifice très massif. Donc il me semble que les Russes ont dû y contribuer pas mal. Il est implanté, alors évidemment, sur le haut du plateau des Glières. Donc c'est un emplacement assez exceptionnel. Il a fallu faire des travaux d'infrastructure relativement importants. Donc c'est un gros bloc, mais qui a comme avantage, évidemment, de dominer l'ensemble de la baie d'Alger. Ah,
j'ai un architecte italien,
oui,
Luigi Moretti,
oui.
Bon. Il a peut-être été faire l'école d'architecture de Saint-Pétersbourg.
Bah, y a certains Algérois qui voient ça comme une verrue dans le paysage d'Alger.
Non, mais alors vous savez qu'à l'indépendance, il y avait en Algérie un seul architecte algérien.
Ah d'accord.
Bon. Bouchama, il s'appelait. Bon, c'était le seul. Et dans le fond, il a fallu fabriquer rapidement un certain nombre d'architectes, mais le temps qu'ils acquièrent les compétences et qu'ils accèdent au marché, on a fonctionné avec des coopérants venus d'un peu partout.
Des anecdotes sur Alger.
Bah, on va revenir sur l'hôtel Saint-Georges, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le nom, donc Saint-Georges, il a des origines anglo-saxonnes, puisqu'il y a les histoires disent que son nom viendrait du père de la reine Elisabeth II, justement. Et donc, en fait, il a été construit pour accueillir les grands des royaumes. Comme il y a Winston Churchill qui a séjourné là-bas, ou Dwight Eisenhower comme Manu l'a précisé tout à l'heure, et même Simone de Beauvoir.
C'est pour vous dire.
Oui. Et
si le castor était dans la
personnalité, grande personnalité britannique, Simone de Beauvoir.
Jean-Pierre Frey, ça vous fait sourire?
Non, mais les officiers généraux de l'armée française ont aussi débarqué là-bas, hein, évidemment, étaient accueillis de Gaulle. Et puis, ceux qui ont mené la guerre qui ont lutté contre la guerre d'indépendance de l'Algérie étaient souvent logés.
Voilà, ils étaient logés au Saint-Georges.
Une autre bâtisse qu'on n'a pas, on n'a pas parlé aujourd'hui encore, c'est le château d'Hydra, qui est aujourd'hui l'ambassade de France en Algérie, mais qui a une grande histoire avant, puisqu'elle a été construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle était occupée par un général turc du nom de Ali Aga. Le nom de la demeure l'originel est le Borj, donc nous on l'appelle le château d'Hydra. Le château, il y a le consul de Suède et de Norvège, John Friedrich Schulze, qui a, peu après le début de la colonisation française, aux alentours de 1832, avant que Napoléon III ait ses appartements, qui a séjourné à partir de 1865, Napoléon III a pris place dans le château. Et puis on a en 1902, Serge Pletzer, un aristocrate russe d'origine hollandaise, l'acquiert avant de l'échanger à la ville d'Alger en 1942, puisque après la révolution bolchevique en 1917, il est tout perdu.
Bien, et c'est aujourd'hui donc notre ambassade.
Une ambassade, exactement.
Un château. Jean-Pierre Frey, donc voilà, on se promènera plus dans Alger de la même façon. Et c'est vrai qu'encore une fois, on le dira, il y a des trésors d'architecture à Alger moderne. Hein. On parlera de la Casbah jeudi plus précisément. Mais levez la tête en tout cas, parce que c'est important.
Oui, levez la tête et surtout n'ayez pas peur de cheminer un peu au hasard en vous laissant attirer par des ambiances. Et donc ce qu'on a dit sur un certain nombre d'équipements me fait penser que la partie centrale de la ville est celle qui accueille le maximum de commerce. Mmh. Donc c'est la partie la plus animée. Mais si vous quittez la partie basse de la ville et que vous montez sur les plateaux, vous allez découvrir des quartiers résidentiels avec des villas absolument superbes, plus ou moins perceptibles de la rue.
Vous reviendrez nous donner la liste, parce qu'il y a des cartes avec ces villas, mais elles sont intéressantes.
Bah, si je peux vous éclairer sur cette question, je le ferai volontiers.
Mais venez nous donner des adresses. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous irons sur les côtes marocaines.
Beurre FM, décalage immédiat, Philippe Robichon avec Manuel Mariani.